ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mardi 19 avril 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Bienvenue à Ça vaut le détour. Très heureuse de vous retrouver en ce midi, milieu de notre semaine en ce qui nous concerne. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis midi. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le mot-clic CVLD pour Ça vaut le détour ou @canal_m sur Twitter. Vous pouvez nous soumettre des sujets qui vous touchent ou commenter sur les propos de nos invités. Aujourd'hui à l'émission, chronique tourisme avec Isabelle Ducharme, présidente de Kéroul. Elle nous apporte une bonne nouvelle pour le milieu touristique. La CEPAC, la Société des établissements de plein air du Québec, vient de rendre public son plan d'action et le bilan des mesures d'adaptation actuelles par rapport à l'accessibilité des lieux, de l'information, des documents et de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Elle sera dans nos studios à 12h45. Et comme l'étude des crédits budgétaires débute aujourd'hui, Benoît Racette de Execo sera avec nous pour nous parler des différents enjeux liés à cet événement et savoir comment les citoyennes et citoyens peuvent avoir une influence à l'Assemblée nationale lors de l'étude. La chronique sera en écho avec l'entrevue dans notre émission du 18 avril de M. Danny Prudhomme, président du réseau FADOC, car M. Racette y abordera certaines problématiques relevées dans les crédits, notamment en matière de services de soutien à domicile. En première partie d'émission, on découvre Trivel, une compagnie qui fabrique des tricycles adaptés pour les enfants vivant avec un handicap physique ou intellectuel. On s'entretient avec Olivier Lajoie, propriétaire de l'entreprise située à Repentigny. Mais tout d'abord, on ouvre l'émission en soulignant le mois de l'autisme en avril, en vous présentant un organisme basé à Sherbrooke, mais qui dessert toute sa région. Anciennement actif sous le nom SPEC Tintamarre, Autism Aide Estrie offre des services aux familles d'enfants et adolescents vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Nouvelle identité, nouvelle salle sensorielle, mais même vocation. J'en parle davantage avec Karine Richard, intervenante clinique. Bonjour, Madame Richard.
Bonjour Maxime, comment allez-vous?
Ça va très bien vous-même.
Ça va bien aussi.
Madame Richard, on va y aller, on va plonger dans le cœur du sujet tout de suite. Quelle est la mission d'Autisme Aide Estrie?
Dans le fond, la mission n'a pas changé depuis les 24 dernières années. C'est d'offrir des services aux gens qui présentent un trouble du spectre de l'autisme ou encore un trouble qui peut être apparenté, dans le fond, dans le fonctionnement qui fonctionne comme un trouble du spectre de l'autisme. On travaille en partenariat avec les divers établissements de la région, soit le CRD ITEM, le C3S, les établissements scolaires, le CHUS, puis tous les autres partenaires le connexent là, dans le privé aussi.
Mm-hmm. Vous couvrez tout le territoire de l'Estrie?
Effectivement, on est régional. Donc, ici, en Estrie, on est le seul organisme qui offre des répits aux familles.
Et justement, bon, on va commencer à parler de vos services de répit. Quelle forme est-ce que ça prend?
On a plusieurs formes. Dans le fond, à l'année, c'est-à-dire du mois d'août jusqu'au mois de septembre, on offre des répits de fin de semaine ainsi que les congés scolaires qui sont collés avec le calendrier de la commission scolaire de Sherbrooke. Par la suite, on offre aussi l'été un camp d'été adapté de fin juin jusqu'à mi-août, là, tout l'été. Donc, on n'offre pas les répits de fin de semaine. Par contre, on est ouvert du lundi au vendredi avec la possibilité de dormir et de venir au camp d'été.
Donc, c'est une forme de camp de jour?
Oui, vraiment adapté. Dans le fond, c'est un ratio d'intervenantes. C'est un intervenante pour trois jeunes ou deux jeunes, là, dépendant des groupes.
Combien de jeunes vous pouvez accueillir justement dans un camp d'été comme celui-là?
Par groupe, dans le fond, on accueille 9 participants. On a 4 groupes présentement ouverts. C'est pas toujours les mêmes participants qui viennent à tous les jours. Ça dépend des besoins des familles aussi. Il y en a qui viennent 3-4 fois par semaine. Il y en a d'autres qui viennent une fois. Il y en a qui viennent une semaine de temps pendant l'été, puis après ça, ils reviennent pas. Fait que ça dépend vraiment des besoins du participant et de la famille.
Mm-hmm. Donc, c'est pas comme un camp conventionnel où est-ce qu'on s'inscrit pour une durée précise, soit plusieurs jours ou plusieurs semaines. Là, on y va vraiment selon le besoin des familles.
Oui, effectivement. On est beaucoup axé sur le besoin de la famille et du participant. Puis on fait nos évaluations pour accepter les participants. Justement, on vise à répondre le plus adéquatement à ses besoins. Donc, on va avec une conformité des groupes le plus possible.
Et quel type d'activité de sortie vous prévoyez, par exemple, lors des congés scolaires durant le reste de l'année régulière?
Dans les congés scolaires, dans le fond, c'est une journée typique, un peu comme l'école. Dans le fond, ils viennent ici, arrivent ici vers 9h. On offre un service de garde le matin et un service de garde le soir. Donc, au service de garde, les participants, vu qu'il est tôt, ils ont le droit d'écouter la TV, de faire des activités de casse-tête ou encore un petit bricolage ou un jeu de table avec l'intervenante qui est sur place. Ensuite, dans la journée, chaque transition est suivie d'un temps libre. Donc, le participant peut faire un peu les activités qu'il veut, selon son champ d'intérêt. Puis, deux fois le matin, il y a une activité plus structurée, deux fois l'après-midi aussi. Donc, on varie, ça soit la cuisine, le bricolage, aller jouer à l'extérieur, activité motrice, activité sensorielle, création, on est vraiment là, dans l'imaginaire là, au niveau de la création d'activités pour eux.
Justement, ces activités structurées, comment vous les mettez en place? Est-ce que ce sont des intervenants chez Autisme Aide Estrie qui les conçoivent ou vous demandez l'aide de différents partenaires?
Bien, en fait, ça va dépendre. C'est plus, quand on demande l'aide des partenaires, c'est plus au niveau des outils à mettre en place. En même temps, avec nous, on collabore tous les milieux, dans le fond, pour mettre des outils pour que le jeune puisse être adapté dans notre milieu et adapter notre milieu pour que le jeune puisse fonctionner et communiquer avec nous. Mm-hmm. Dans un autre temps, au niveau de la création des activités, nos intervenantes, ils ont déjà quand même un bagage. Ils sont accompagnés par nous, les intervenantes cliniques, pour pouvoir justement s'aider à adapter certaines activités. Ils vont aussi avec leurs intérêts, les intérêts des participants. Ils commencent à vraiment bien y connaître. Fait qu'ils sont capables d'aller profondément. Ah oui, lui, il va aimer ça, lui, il va aimer ça. Mais comme on a la possibilité d'avoir une intervenante pour trois jeunes, dans le fond, l'intervenante qui va faire l'activité avec ces trois jeunes-là va adapter l'activité le plus possible aux jeunes qu'elle va accompagner durant la journée. Donc, souvent, on va prendre une activité qui peut être de niveau cognitif élevé, mais qui peut être modifiée de façon à ce que ceux qui sont un peu moins cognitifs puissent aussi avoir du plaisir et se retrouver dans cette activité-là.
Et leur permettre aussi de socialiser avec les autres jeunes avec qui ils se trouvent.
Oui, effectivement.
Et est-ce que, justement, ces jeunes, est-ce que vous ciblez des groupes d'âge en particulier? On parle peut-être, si on se fie au calendrier scolaire, est-ce qu'ils doivent aussi aller à l'école ou est-ce qu'on parle vraiment de 0 à 18 ans?
Écoute, nous, on est plus large que ça. Nous, on commence à 5 ans, puis on termine à... Présentement, le participant le plus âgé a 36 ans. Donc, des journées de congés scolaires, on s'entend, il n'y a pas juste les congés scolaires. Il y a des gens qui vont sur des plateaux de travail qui sont aussi fermés les journées de congés scolaires. Mm-hmm. Donc, ils ont plus de 18 ans. Ils viennent, on s'adapte. C'est les congés scolaires, c'est les moments où ce qu'on a le plus de diversité au niveau de l'âge. Ce qui est des répits, ils sont beaucoup plus focalisés sur justement la période de vie. Donc, 5, 12, 13 à 17, 18, tu sais, puis selon les problématiques. Là. Mm-hmm. On a 4 répits qui fonctionnent. Dans le fond, on a répit 1, 2, 3, 4, puis ils viennent en rotation une fois par mois. Puis c'est toujours une suite logique. Dans le fond, 1, 2, 3, 4, et on recommence à 1, 2, 3, 4. Donc, les familles on bénéficie de un répit par mois.
Mm-hmm. Madame Richard, le 1er avril dernier, vous avez fait une belle annonce. Vous avez inauguré une toute nouvelle salle sensorielle. J'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'une salle sensorielle, quel en est l'usage?
Une salle sensorielle, c'est un endroit vraiment merveilleux puis plaisant à exploiter. Les enfants TSA sont souvent, TSA, on parle de troubles du spectre de l'autisme, mm-hmm. sont souvent très envahis par leur sens où ils sont justement pas assez. Donc, une salle sensorielle, ça va les chercher à les rendre disponibles, que ce soit en les stimulant plus ou en les apaisant, que ce soit pour l'intervention, l'apprentissage ou encore la communication. Dans cette salle-là, on travaille 7 sens. Donc, les 5 sens de base que tout le monde connaît, on rajoute le vestibulaire, qui est tout ce qui est l'espace-temps, le mouvement de bercer ou encore le tourniquet là, qu'on jouait quand on était petit au parc. Mm-hmm. Et il y a la proprioception aussi qui est au niveau plus du tonus musculaire. La recherche de se comprendre, je suis ici, dans l'univers, dans l'espace, mon bras, il est à tel endroit, puis de forcer, de jouer avec des poids, des petits poids ou encore de jouer avec des élastiques. ça a aussi le bienfait de pouvoir être utilisé en précurseur à une crise. Donc, quand on voit des comportements qui évoluent tranquillement, des fois, on peut justement proposer la sphère sensorielle. Fait que ça apaise le participant, puis ça le rend disponible à revenir après en groupe. Parce que, veux pas, on a quand même 9 participants par fin de semaine. On a 4 intervenantes, plus nous, l'intervenante clinique, soit moi ou Catherine, qui sommes présentes. Fait, ça fait quand même beaucoup de monde.
Mm-hmm.
Et à un moment donné, des fois, il y en a certains qui ont besoin de se retirer, et c'est vraiment la place. Pour d'autres qui sont trop amorphes, on va les apporter pour justement leur donner un petit plus, un petit « Ah, viens-t'en, on va les jouer. » Puis souvent, ça va leur donner l'envolée qu'ils ont besoin pour faire l'apprentissage qui s'en vient après dans son horaire.
Mm-hmm. On voit vraiment que cette salle est multifonctionnelle. Vous vous en servez beaucoup. Est-ce que l'installation d'une telle salle est très coûteuse?
Présentement, on l'a fait en 2 phases. Ça va vous donner un peu l'idée de à quel point ça peut être coûteux. La phase 1 a été faite cette année. On a une phase 2 qui arrive au mois de septembre avec la levée de fonds. C'est une salle qu'on peut parler d'un projet facilement là, entre 30 et 40 000 $. Et ça, c'est la base. Donc, avec le temps, on va pouvoir aussi investir dedans là, pour l'augmenter.
OK. Et donc, si on souhaite vous soutenir justement dans cette levée de fonds pour la deuxième phase de la salle sensorielle qui s'en vient en septembre, comment on fait?
Bien, on a un nouveau site Internet où ce que en mai, ça va être officiel, là, on va pouvoir faire des dons en ligne. Ou encore, on a notre levée de fonds. C'est la deuxième édition cette année, puis on vise vraiment là, à continuer à en faire. C'est Je roule pour l'autisme qui se déroule en septembre, ici à Sherbrooke. Ça se fait autour du Lac des Nations. Donc, ceux qui veulent l'information, ils peuvent aller le chercher directement sur le site, qui est autismemaidestrie.com.
Et donc, cette balade à vélo, c'est pour l'édition, à la dernière édition, en 2015, vous aviez déjà ramassé 15 000 $.
Oui.
Est-ce que c'est le même objectif aussi pour l'édition 2016?
Oui, et même plus, parce qu'on a encore, tu veux pas, on est un organisme communautaire. Donc, on a beaucoup de choses qu'on aimerait développer pour pouvoir justement accompagner plus profondément les familles, les participants, quand ils viennent ici, pour pouvoir faire la stimulation vraiment plus poussée, pour pouvoir créer des nouveaux outils, un bel environnement adapté pour eux, que ce soit par le jeu ou encore par les moyens de communication.
Mm-hmm. En terminant, Mme Richard, si on souhaite profiter des services de Autisme Aide Estrie, comment on fait? Est-ce qu'on doit passer par notre CLSC ou on peut vous contacter directement?
Il faut nous contacter directement. Dans le fond, vous pouvez le faire via le site Internet ou encore par Facebook. On a, comme j'ai dit, le site Internet, c'est Autisme Aide Estrie, et donc Facebook, c'est la même chose. Nous, après ça, on peut rentrer en contact avec vous pour donner les informations là, au niveau paperasse à remplir et tout, pour pouvoir entamer le processus avec nous.
Mm-hmm. Bien, on vous souhaite vraiment de profiter beaucoup de cette nouvelle salle sensorielle qui a été inaugurée il y a à peine 2 semaines. Vraiment un bon succès. On va se tenir au courant concernant votre levée de fonds en septembre pour cette deuxième phase pour la salle sensorielle. On va mettre aussi le lien sur le site, la page de notre émission autismeaidestrie.com. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Karine Richard, vous êtes intervenante clinique chez Autisme Aide Estrie.
Mais je vous remercie beaucoup à vous aussi.
Dis-moi, 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 à qui la chance, en dépit des circonstances. Dis-moi, 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 à qui la chance, en dépit des circonstances. Ah, les amitiés. Lorsqu'on est tanné, ah, les amitiés. Mais lorsqu'on est tanné, comment va ton week-end? Comment va ton week-end? J'aimerais ça que tu m'appelles ce soir.
façon que tu me trouves belle ce soir.
Pékin, les amitiés, une pièce de Jason Bajada, tirée de son album Volcano, une parution de février dernier. J'aime beaucoup sa pop qui me fait aussi aujourd'hui penser beaucoup à Dumas. Donc, c'est une belle découverte ce midi. On venait tout juste d'en parler avec Mme Richard, Autisme Industrie. Leur levée de fonds se fait en balade à vélo. On voit que le vélo, la bicyclette est quelque chose de très, très, très présent dans la population au Québec. La saison estivale qui s'amorce est souvent synonyme de randonnée en vélo en famille, avec les amis, et pour plusieurs enfants en situation de handicap, c'est un plaisir qui est à leur portée, entre autres grâce au travail de Trivel. On parle aujourd'hui au propriétaire de Trivel, M. Olivier Lajoie. Bonjour.
Bonjour.
M. Lajoie, parlez-nous de la spécialité de Trivel.
Certainement. Donc, notre entreprise est située à Repentigny. Nous sommes des fabricants de tricycles de tout type. Donc, nous fabriquons des tricycles spécialisés qui sont fabriqués en fonction des besoins des enfants, adolescents ou adultes. Donc, on parle de tricycles qui peuvent parfois être à vitesse, parfois être en grainage différent, dépendamment des besoins et des capacités de chaque personne.
Monsieur Lajoie, vous êtes ingénieur mécanique. Comment on se retrouve dans le domaine des vélos de la réadaptation?
C'est une très bonne question. J'ai acheté l'entreprise il y a déjà 5 ans, donc principalement notre entreprise au départ était un commerce de vélo. Donc on a toujours ce commerce de vélo à Repentigny où ce qu'on vend tout type de vélo, le vélo de route, vélo hybride et de montagne. Et au sous-sol ainsi qu'à l'arrière, nous avons nos ateliers de fabrication et d'assemblage qui chaque année est en forte croissance. Donc présentement nous avons environ 10 employés, 10 à 12 employés, dont une bonne partie affairée au travail d'assemblage et de fabrication des tricycles qui sont maintenant vendus partout au Québec, au Canada, ainsi qu'aux États-Unis et maintenant en Suisse.
Donc, vraiment, le marché qui s'est étendu dans les dernières années, c'est populaire le tricycle en réadaptation?
Oui, certainement, ça m'a surpris grandement au tout départ. Quand j'ai commencé l'aventure, nos principaux clients étaient situés au Québec, donc tous les centres de réadaptation dans la région principale de Montréal au tout début. Par la suite, on s'est agrandi un peu partout au Québec. Mais j'ai rapidement constaté que c'est C'est un produit qui est utilisé par les physiothérapeutes ainsi que les ergothérapeutes, vraiment dans un cadre de réadaptation, donc autant pour développer une certaine force musculaire ou une certaine motricité. J'étais très surpris de voir que c'était un équipement qui était utilisé autant en réadaptation ainsi qu'à la maison. Pour faciliter à la maison, on a différents accessoires aussi, comme par exemple, on a un guidon à l'arrière qui permet de contrôler la roue avant si on a un enfant qui a un certain défi au niveau intellectuel. Donc, on peut contrôler le guidon, donc le contrôle. On a aussi des barres de remorquage qui permettent de tirer les tricycles des enfants derrière le vélo du parent. Donc, ça offre beaucoup de liberté pour une famille qui a plusieurs enfants, de vraiment faire des plus longues randonnées en remorquant le tricycle de l'enfant derrière celui du parent.
Tout à fait. Donc, l'enfant, même si, par exemple, il n'a pas beaucoup d'endurance, peut se permettre de faire des randonnées plus longues avec sa famille.
Certainement, oui. Et puis, pour ce qui est des adolescents et des adultes, on a aussi beaucoup de produits pour eux. Donc, on a des vélos, des tricycles qui sont à assistance électrique, donc qui vont permettre de quand même faire de l'exercice. Mais lorsqu'on va ressentir un peu de fatigue ou qu'on va avoir une côte ou du vent, on va pouvoir ajuster en fonction du besoin vraiment le système électrique qui va permettre de faire des plus longues randonnées puis vraiment de donner un sentiment de liberté puis d'autonomie dans ces déplacements.
Est-ce que vous travaillez avec des professionnels pour adapter les tricycles? Est-ce que c'est votre personnel qui est formé pour ça ou c'est plutôt des collaborateurs externes?
Non, c'est nous-mêmes. Donc, j'ai mon représentant qui se nomme Sébastien, qui est principalement affairé au Québec. Donc, lui, il se promène à la grandeur du Québec pratiquement toute la semaine. Et puis, il va rencontrer les enfants, les adolescents et les adultes dans les centres de réadaptation, dans les écoles spécialisées. Donc, chaque enfant est rencontré individuellement. Avec un professionnel donc qui va suivre l'enfant, souvent un physiothérapeute ou un ergothérapeute. Et puis ensemble, on va essayer des vélos. On va obtenir un devis à savoir quels sont les besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'adulte. Puis par la suite, on va avoir différents types de financements qui sont offerts. On a la chance au Québec d'avoir un programme très intéressant qui s'appelle le programme pour les tricycles adaptés. Qui sont subventionnés. Donc, les familles ont droit, s'ils sont dans les conditions du programme, peuvent obtenir un certain financement pour le tricycle adapté de leur enfant.
Donc, on veille quand même à une certaine accessibilité financière aussi de l'appareil.
Oui, certainement. Puis, on parle d'un montant qui est assez élevé. Le parent doit payer un petit montant forfaitaire. C'est vraiment un financement qui est vraiment... très, très apprécié par les parents. C'est un financement aussi qui est vraiment unique. On le voit à quelques endroits au monde. Et puis le Québec a la chance d'avoir un si beau programme.
C'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est le cas, par exemple, est-ce que c'est seulement l'achat d'un tricycle qui peut être financé? Ou on parle, si on considère la croissance de l'enfant, c'est peut-être parfois deux, trois tricycles qu'il va avoir besoin?
Oui, certainement. Donc, tout au cours de sa croissance jusqu'à l'âge de 18 ans, l'enfant va pouvoir avoir droit à ce beau programme. On parle de tricycles adaptés beaucoup, mais aussi il ne faut pas oublier que nous avons des équipements, nous avons des roues stabilisatrices, comme on appelle, qui sont pour des vélos d'adolescents ou d'enfants ou d'adultes même. Donc, on a des roues qui vont permettre de donner une certaine stabilité à un vélo standard qu'on achète dans un magasin de vélo. On va y rajouter des roues arrière qui vont vraiment stabiliser le vélo. Donc, c'est encore un client qui a juste un léger défi au niveau de la stabilité. Donc, on va rajouter ces roues, puis ça va lui donner une pleine liberté.
Donc, ça aussi, ça peut être une très bonne option, même pour plusieurs personnes, justement, qui ne sont pas en situation de handicap comme telle, mais peut-être vieillissent ou sont justement plus craintifs sur la route. Ça peut être une option envisagée.
Oui, certainement. Ça fonctionne très bien, puis on voit beaucoup de succès avec ça.
Monsieur Lajoie, on parle de vos vélos, de vos tricycles qui ont une fonction utile, mais est-ce qu'ils sont beaux? Est-ce qu'on est fier de les montrer, de se pavaner devant nos petits amis à vélo?
C'est une bonne question. Donc, notre équipe, vraiment, là, on porte beaucoup d'emphase sur le look. Fait qu'on veut que nos vélos aient un look cool. Donc, on veut des belles couleurs, on veut des belles courbes, on veut que vraiment, là, c'est un vélo qui se différencie, mais qui est original, puis qui donne le goût d'en faire. Donc, on veut pas avoir un certain look trop adapté. Donc, on veut vraiment que ce soit quelque chose qui est... Puis, je pense qu'on réussit bien. On a des très beaux commentaires de nos clients comme ils sont très fiers de rouler avec nos tricycles.
Oui, parce que justement, on pense surtout à l'enfance, à l'adolescence, où est-ce qu'on veut bien faire du vélo, mais si on a l'étiquette trop orthopédique qui nous colle dessus, ça peut décourager certains.
Oui, certains. Donc, vous pouvez certainement aller voir nos produits sur Internet à trivel.com. Vous allez voir qu'on fait des tricycles qui sont assez innovateurs, qui ont un beau look, puis qui donnent vraiment le goût au printemps d'aller dehors, de pédaler, puis d'avoir le sourire, le vent au visage.
En terminant, Olivier Lajoie, quels sont vos projets pour l'avenir? Est-ce qu'on exporte déjà dans de nouveaux marchés après le Canada et les États-Unis et la Suisse?
Oui, ben on développe plusieurs nouveaux marchés en Europe et puis aussi continuer à développer graduellement notre marché canadien. Je retourne moi-même à l'innovation. Donc, on planifie en 2017-2018 d'avoir probablement des technologies embarquées sur nos tricycles qui vont permettre d'avoir un certain suivi au niveau de la réadaptation. Donc, on travaille sur l'intégration de nouvelles technologies à l'ère de 2016.
Mm-hmm. Et donc, on va suivre ça avec un grand intérêt. Félicitations pour vraiment le bon succès de votre entreprise. Olivier Lajoie, vous êtes propriétaire de Trivel, qui fait des tricycles et vélos adaptés pour les enfants et les plus âgés vivant avec un handicap physique ou intellectuel. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous parler aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Passez une bonne saison de vélo.
Alors, restez avec nous. Après la pause, on reçoit Benoît Racette pour la chronique Ex aequo. Dans notre chronique Société juste et inclusive, on parle entre autres des crédits budgétaires et du soutien au domicile.
Sur les ondes du Canal M, vous écoutez Ça vaut le détour avec Maxime D. Pomerleau.
Toujours à Ça vaut le détour, on entame cette deuxième partie d'émission. C'est notre chronique Société juste et inclusive d'Ex aequo et on répond à la question « Qu'est-ce que l'étude des crédits budgétaires qui se déroule en ce moment au Québec et surtout à Québec, à la ville, à la capitale, où est-ce qu'il y a l'Assemblée nationale? » Pour répondre à cette question qui sombre dans des détails techniques, j'ai Benoît Racette avec moi de Ex aequo. Bonjour Benoît.
Bonjour Maxime.
Donc, avant d'arriver plus loin dans l'étude plus précise de ces crédits budgétaires-là, qu'est-ce qu'un crédit budgétaire? Oh. Qu'est-ce qu'on doit savoir en premier pour bien comprendre la suite de notre discussion?
Bien, on pourrait resituer notre relation, Maxime, puisqu'on s'est
Allons-y.
Vu le mois dernier à cette émission, et c'était le jour de la présentation du budget fédéral, et on avait beaucoup commenté le budget provincial qui avait été présenté la semaine d'avant.
Tout à fait.
Alors, les crédits budgétaires, je l'avais annoncé un peu la dernière fois, c'est une manière que le gouvernement a de proposer, de présenter le budget facette par facette, volet par volet, programme par programme, et surtout de le présenter aux différentes commissions responsables de ces programmes-là, afin qu'ils les étudient, qu'ils les surveillent, qui fasse valoir ce que nous, comme citoyens aussi, on a remarqué qui était problématique dans le budget. Mm-hmm. C'est vraiment un moment important. Puis il y a même un vote à l'issue de ces commissions-là avant de retourner à l'Assemblée nationale.
Justement, parce qu'on parlait dans notre dernière chronique il y a un mois qu'on reçoit ces données du budget, mais on a une certaine période, en fait. On a un jeu où est-ce que là, on peut prendre position, on peut faire valoir certains points, on peut justement étudier plus profondément certaines conventions qui sont souvent évoquées, mais donc on est à la fin finalement de cette période de jeu-là.
Exactement. Ben, il faut dire par ailleurs que depuis le 26 mars, il y a eu la publication de ces crédits budgétaires-là. Crédits budgétaires que vous pouvez repérer aussi dans les médias. On parle aussi de... c'est quoi l'autre nom? Maudine, je ne l'ai plus. En tout cas, moi, je dis toujours crédit budgétaire. Tant pis. Mais donc, on a pu l'analyser un peu et c'est pas facile parce que, tu sais, on n'est pas tous nés économistes ou comptables dans la vie. Et donc, on doit se mettre à beaucoup de tête souvent pour comprendre où est passé l'argent, quel genre de coupure il y a. Mais on a quand même relevé des inquiétudes claires et, comme organisation de défense de droit, on peut évidemment communiquer ça aux partis politiques. Mais vous, comme citoyen, vous pouvez aussi reposer les questions. Mm-hmm. En tout cas, mais ce que j'avais envie de rajouter, Maxime, c'est qu'est-ce qu'on a déjà vu comme enjeu? On en a parlé un peu la dernière fois. On avait parlé, entre autres, de soutien à domicile. Vous en avez reparlé avec la FADOC hier.
Oui.
Et moi, j'avais envie, parce qu'on vient tout juste de terminer, la commission sur l'occupation du territoire, qui est entre autres responsable de l'habitation. Et c'est super important. Je parlais plus tôt avec quelqu'un de la COFAN, notre Confédération des organismes de personnes handicapées, et on est très inquiet. Pardon? Et ben, je suis très inquiet. On est très inquiet pour le programme d'adaptation de domicile. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas si les gens qui nous entendent à la maison connaissent ce programme-là, mais c'est très important. C'est ce programme qui consiste à recevoir de l'argent après une évaluation d'une ergothérapeute, entre autres, de recevoir de l'argent et de faire les travaux afin que son domicile soit accessible et adapté.
Mm-hmm, à nos besoins.
Exact.
Et on sait qu'il y a eu... il fonctionne avec... C'est le PAD, communément appelé.
Oui, on l'appelle le PAD, son petit nom.
Oui, le PAD, donc, qui bénéficie d'une certaine enveloppe budgétaire chaque année qui permet de rendre un certain nombre d'unités d'habitation mm-hmm. accessibles ou adaptées aux besoins précisément des occupants. Et on a remarqué, justement, dans les dernières années, une diminution de ce budget-là.
Oui, absolument. En 2012-2013, on était à 78,7 millions, mais il faut dire que ça inclut autre chose hein, que le programme d'adaptation domiciliaire. Il y avait aussi, entre autres, peut-être que les gens de la FADOC vous en ont parlé, il y avait le programme de logement adapté aîné autonome qui a disparu, qui a été finalement aboli. Et donc, je reviens, en 2012-2013, il y avait 78,7 millions d'investis, équivalent à 1321 unités adaptées. Et là, aujourd'hui, on ne sait pas combien il y a d'unités adaptées parce que c'est compliqué de repérer, mais on sait qu'on est rendu à 3,8 millions. Donc, je répète, là, on était à 78 millions en 2012-2013. En 2016-2017, selon l'étude des crédits en ce moment, il y a 3,8 millions. Et ce que la SHQ nous a dit, c'est que s'il y avait des surplus au crédit, on ne les a pas trouvés encore, on les réinvestirait. Sauf que ce que ça veut dire, c'est que ce programme-là est en péril. Mm-hmm. Le 3,8 millions, il va servir à payer les dossiers en cours. Vous avez fait, là, mais soyez pas inquiets, là, vous avez fait une demande, on vous l'a promis, vous allez l'avoir, là, il y a 3,8 millions. Mais si vous êtes un nouveau demandeur, est-ce que le programme va demeurer? C'est super important. Il faut tout de suite interpeller les gens sur cette question-là. Évidemment, il y a d'autres enjeux hein, en santé qu'on aimerait regarder en transport, mais je pourrais vous en reparler là, parce que le transport, c'est cet après-midi. Fait que sachez-le.
Tout à fait. Donc, on va attendre de voir qu'est-ce qui va en ressortir et on vous rappellera pour une prochaine chronique où on peut passer beaucoup de temps là-dessus. Mais Benoît Racette, justement, on parle du PAD, on parle d'adaptation de logis. C'est une question qui est très importante parce que ça rejoint aussi tout ce qui est le volet de soutien des services à domicile.
Oui.
Si on ne peut pas habiter dans sa maison, dans son logement adapté, ça peut pas fonctionner et
C'est impossible d'être autonome sans ça parce qu'on le sait, pour pouvoir demeurer dans des lieux, il faut qu'ils soient adaptés. Sinon, le CHSLD, bon, les personnes aînées, certains apprécient y être, là, mais la plupart des personnes en situation de handicap qui sont toujours autonomes n'ont pas envie d'aller là. Ça répond pas aux besoins pour garder son autonomie. Donc, si le soutien à domicile, c'est important, puis on n'est pas sûr d'ailleurs, la FADOC vous l'a dit hier, là, on croit qu'il y a 60 millions dans les budgets, on a promis quelque chose comme 88, on ne sait pas trop y est où, mais en campagne électorale, on avait promis 150 millions. Alors, il n'y a pas assez d'argent et on sait que les besoins sont criants. Mais si d'un côté, on coupe ou on n'investit pas suffisamment en soutien à domicile, et de l'autre, on gèle le programme d'adaptation domiciliaire, bien on dit au monde, on n'a pas envie que vous restiez chez vous, même si c'est la meilleure solution, même si on sait que pour la santé à long terme, c'est ce qu'il y a de mieux, on ne fait pas ce qu'il faut comme gouvernement pour rendre ça possible. Alors, moi, j'invite les gens, dites-le, SAD, PAD, c'est important pour mon autonomie, et juste vous dire, c'est ce jeudi qu'il y aura la commission de la santé et des services sociaux qui étudiera la question du soutien à domicile.
Justement, ils vont s'y pencher, vont être à l'Assemblée nationale, vont s'y pencher pendant près de 12 heures.
Oui.
C'est un marathon.
Eh bien, absolument. C'est parce qu'il y a 200 heures en tout qui sont consenties à l'étude des crédits budgétaires. Évidemment, la part du lion va à la santé et services sociaux, puisqu'il faut se rappeler que c'est bon an, mal an, la moitié de notre budget. Alors, il y a beaucoup de postes de dépenses à étudier, mais c'est aussi colossal. Comme investissement. Et donc, ça prend du temps, ça prend 12 heures pour bien comprendre ce qu'il y a là-dedans, puis surtout pour poser les questions. Parce que je vais vous parler ensuite du citoyen, mais là, pour l'instant, ce que font les députés, c'est qu'ils analysent, ils veillent, ils scrutent, ils posent des questions aux ministres responsables, notamment. Et c'est comme ça qu'on peut avoir leur juste sur le financement réel des programmes. En tout cas, des différents programmes.
Tout à fait. Et vous, votre son de cloche par rapport à ça, par rapport à ce qui s'en vient, qu'est-ce que...
Bon, on a déjà dit, ça va pas très bien. Puis
en
santé, services sociaux, il manque d'argent. En soutien à domicile, il manque d'argent. Mais moi, j'irais plus loin. Là. Je dirais, à quoi ça sert, cet espace-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous qui nous écoutez en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on s'informe. C'est un des premiers pouvoirs qu'on a comme citoyen. Et vous pouvez aller dès maintenant sur www.assnat.qc.ca. Vous allez sélectionner la rubrique « Vidéo ». Et donc, c'est en haut, là, dans la petite barre bleue. Et si vous l'avez en audio description, vous allez l'entendre dès le départ. Donc, en allant vers vidéo, vous pouvez atteindre les webdiffusions en direct des différentes commissions. Donc, cet après-midi, il va y avoir transport et environnement. Transport et environnement. Vous pouvez y aller, aller entendre ça. Et jeudi, il y aura santé et services sociaux. N'ayez pas peur, ça va être en banque, vous allez pouvoir le voir plus tard. Mais dans un deuxième temps, il ne faut pas juste s'informer, hein? Il faut aussi interpeller. Et les gens qui participent aux commissions, je vous l'ai dit, c'est les députés des trois principaux partis reconnus, mais aussi QS s'y ajoute. Ils ont appuyé clairement le meilleur financement du soutien à domicile, par exemple, Québec solidaire, mais le Parti québécois aussi.
Tout à fait.
Donc, ces représentants qui vont être aux commissions, on peut les interpeller sur Twitter. Retrouvez-les sur Twitter. Dites-leur, vous êtes en commission. Moi, j'ai été coupé dans soutien à domicile. J'ai besoin qu'on refinance. Moi, j'ai besoin du transport adapté suffisant. Moi, j'ai besoin de la mise en accessibilité du transport régulier. Ou moi, j'ai besoin de mon pad. Allez-y, allez à la rencontre des politiciens dans un premier temps.
Ou même aussi, j'interpelle aussi les familles, les amis, les alliés, les collègues, des gens, les aînés aussi, évidemment. Mais donc, ce n'est pas seulement de laisser les gens en situation d'handicap de manifester leurs besoins, mais c'est aussi... Mon conjoint en a besoin, mon père en a besoin, ma sœur en a besoin, mon collègue en a besoin. Et c'est aussi en mobilisant la population que là, on peut faire comprendre que les enjeux, finalement, sont très importants, sont plus grands et ont des conséquences sur beaucoup de gens.
Absolument. Donc, on est tous touchés. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et moi, j'aurais envie... On a parlé de la commission, des commissions qui étudient les crédits budgétaires, mais saviez-vous qu'à l'Assemblée nationale, vous avez toutes sortes de pouvoirs? pas juste au travers de ces députés qui sont bien gentils, surtout quand ils veulent leur vote, vos votes, mais vous, vous avez droit de consulter ou proposer ou signer des pétitions d'intérêt. Il y en a beaucoup qui circulent. Sur le site de l'Assemblée nationale, on peut retrouver ça. Il ne faut pas non plus oublier qu'on a même le droit de proposer un projet de loi d'intérêt privé. Ça, les gens à Québec accessible en ce moment, ils se penchent là-dessus aussi, parce qu'on pourrait, évidemment, en le faisant valider par un des partis, ça ne veut pas dire que ça marche bien, mais les citoyens auraient le droit de proposer ou de faire un certain travail dans le but de devoir proposer une loi. Et évidemment, on peut participer à des commissions et c'est sur le site de l'Assemblée nationale qu'on sait quand elles ont lieu et il faut s'y présenter. Même des fois, si vous n'êtes pas un économiste, vous êtes la personne qui connaît le mieux sa situation et en témoigner, souvent c'est parlant, ça permet aux gens de prendre des bonnes décisions, même budgétaires.
Merci beaucoup, Benoît Racette. Tu nous donnes le goût de nous impliquer davantage. Donc, on va continuer à surveiller ça parce que, justement, l'étude des commissions pour les crédits budgétaires n'est pas terminée. Ça se passe cette semaine. On va certainement regarder, entre autres, ce qui se passe du côté du transport. On va vous recevoir à nouveau le mois prochain pour cette autre chronique ex aequo pour une société plus juste et inclusive. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, Maxime.
Qu'un jour on comprend qu'avec des bruits et des grimaces on fait sourire sa maman. Ou bien plus tard, adolescent, incompris et timide, on rêve d'un génial testament et d'un parfait suicide. Dans sa chambre d'enfant, devant l'écran, elle prend des pauses. L'araignée a tissé la toile où j'ai tous mes amis. Et tous on chante dans la chorale. Look at me, look at me. Aime-moi, je t'en prie, aime-moi. Dans la nuit, une voix, un cri.
Pierre Flynn, qu'on vient d'entendre avec sa pièce Sirène, tirée de son album Sur la Terre, une parution de 2015, après plusieurs années d'attente de nouveaux matériels. Il nous a récompensé, donc vraiment très belle mélodie à nos oreilles. On conclut notre émission aujourd'hui à Ça vaut le détour avec notre chronique de tourisme, tourisme accessible avec Isabelle Ducharme, présidente de Kiroul. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, j'en parlais en début d'émission, une nouvelle annonce de la CEPAC du côté des parcs de la CEPAC.
En fait, je ne sais pas depuis quand ils ont mis ça sur leur site web, honnêtement. Mais je sais que depuis un bon bout de temps, là, il y a des collaborations entre Kiroul et la CEPAC pour améliorer l'accessibilité des lieux, des services et des produits qu'ils offrent. Et maintenant, sur leur site web, on peut aussi trouver leur plan d'action en lien avec ce que le gouvernement a demandé de tout. De tout leur tentacule, si on veut, là, de service, c'est-à-dire d'établir un plan d'intégration des personnes handicapées. Et ça veut dire autant dans l'emploi, dans l'accès aux services, aux produits, aux lieux, etc., et aussi dans l'accès à l'information. Donc, on voit déjà dans premier plan, là, on nous dit tout ce qui a déjà été fait pour rendre tout ça plus accessible, qu'est-ce qui est dans les plans aussi pour les prochaines années. Puis c'est quand même assez élaboré, là. Je trouve qu'ils ont mis la barre haute sur ce qu'ils veulent faire. Puis je pense qu'ils sont en bon processus.
Justement, cet exercice-là se fait dans le cadre de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Donc, ce plan qui est justement qui est disponible sur leur site... Ce plan propose en fait différents angles, différentes avenues.
Effectivement, c'est un plan qui va autant dans le bilan de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc c'est là qu'on peut retrouver toute l'information sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant, mais aussi sur ce qu'ils veulent faire éventuellement. Peut-être que je suis rentrée un peu vite dans leurs plans, dans leurs intentions, mais peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas la CEPAC. La CEPAC, c'est S-E-P-A-Q et c'est pour la Société des établissements de plein air du Québec. Donc, c'est un regroupement, c'est un réseau de plein air au Québec où on peut faire toutes sortes d'activités. Et ce réseau-là était comme séparé, si on veut, en trois grands secteurs. Donc, il y a 23 parcs nationaux et incluant le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Il y a 15 réserves fauniques et la pourvoirie CEPAC Anticosti et 10 centres touristiques. En gros, si on veut, les 23 parcs nationaux, ça inclut des endroits comme le parc d'Oka, donc des endroits où on peut faire autant des activités plein air que des hébergements, des campings, etc. Parfois, ça peut être une auberge qui va être sur le site. Alors que quand on parle des réserves fauniques, à ce moment-là, on se retrouve beaucoup plus... c'est moins défrichi. On va plus avoir des activités vraiment, je dirais, rustiques. Là. Tu sais, c'est moins développé, c'est moins là qu'on va trouver des pistes d'hébertisme avec des escalades, etc., qui ont été faites par l'humain. C'est plus dans les réserves fauniques, on va trouver plus des choses qui ont été vraiment dans la nature et on ne veut pas modifier la nature.
Tout à fait. C'est peut-être là où est-ce qu'il y a plus d'activités de pêche, par exemple.
Exact. Et ensuite, on a les centres touristiques où là, c'est plus des activités qui sont faites, mais pas d'hébergement, pas de camping, etc., comme les chutes Montmorency, par exemple, vont en faire partie.
Et Isabelle, on a dit qu'il y avait déjà de l'accessibilité dans différents lieux, parce qu'on peut le voir avec ce bilan, il y avait déjà des choses de fait, il y avait déjà des initiatives, il y a certains parcs qui sont même très, très, très avancés au niveau de l'accessibilité. Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'ils ont ciblé?
Bien, moi, je vous dirais que la première chose qu'il faut se souvenir, c'est que, comme on parle de la nature... Elle ne peut pas tout le temps, on ne peut pas garder la beauté des lieux et rendre ça complètement accessible de A à Z. Donc, oui, il y a des choses qui sont faites, il y a des sentiers qui étaient remplis de branches d'arbres ou de et qui ont été soit faits en gravier, tapés ou qui ont été faits même en bois quand c'était possible. Mm-hmm. Donc, oui, il y a des endroits qui sont faits, mais c'est bien sûr des endroits aussi qui sont moins facilement modifiables. Fait qu'il y a des endroits où on essaie encore de voir comment ça peut être modifié sans trop abîmer le paysage, sans trop se départir de la beauté de la nature. Donc, dans ce qui est fait, c'est qu'à ce moment-là, on a tenu compte d'abord de pouvoir se rendre sur les lieux, qu'il y ait du stationnement accessible, qu'il y ait des lieux d'accueil où il n'y a pas la marche en avant. Donc, ce qui est fait, c'est beaucoup dans ce qui était plus facile à identifier, que s'il y a des aires de pique-nique, bien qu'on ait gardé des tables de pique-nique mieux adaptées. On sait maintenant qu'il y a des tables de pique-nique qui peuvent avoir une extension au bout. Donc, la personne qui arrive en fauteuil roulant avec sa famille, bien pas obligée de rester à côté de la table de pique-nique traditionnelle. On va avoir aussi une des choses principales, bien sûr, tout ce qui est bloc sanitaire. Donc, si on a un camping, s'assurer que le bloc sanitaire, il y en a un qui est mieux adapté, qui est plus grand, qui a une douche, etc., qui va être prêt aussi des installations de camping.
Tout à fait.
Et on va aussi y aller là, jusque sur les quais, les embarcadères, les équipements, tout ça, là, tout ce qu'on peut trouver d'accessibilité. Et ce qui est bien, c'est que dans le plan d'action qu'on peut retrouver sur le site web, on a vraiment un tableau où on nous dit, si vous voulez aller à tel parc, à tel endroit, il y aura telle accessibilité. Moi, ce qu'on a demandé, qu'on espère avoir bientôt, c'est que ce soit directement sur le site web. Quand on fait une recherche sur un site, si on parle, mettons, du plan de vouloir aller à Oka, bien qu'on puisse tout de suite voir l'information sur l'accessibilité. Pour l'instant, il faut aller dans le tableau qui est dans un document extérieur, mais ça s'en vient.
Ça s'en vient, justement, c'est en progression. On parle aussi, Isabelle, bon, on vient de nommer quelques exemples de modifications qu'on peut facilement apporter, justement, qui n'abîment pas le paysage et autres. Mais il y a aussi cet aspect d'accueil des touristes, des gens qui viennent. Donc, il y a une formation aussi du personnel. Il y a une préoccupation d'avoir un personnel formé.
Puis ça, c'est quelque chose qu'on offre aussi en collaboration avec la CEPAC, qui font toujours la promotion de la formation à laquelle que Kéroul donne. Et sur ce, d'ailleurs, je voulais vous parler aujourd'hui du parc d'Oka, du parc national d'Oka, qui est vraiment un coup de cœur pour nous, qui est la mention Kéroul de 2012, justement pour l'ensemble de l'accessibilité qu'ils ont développée pour la formation à l'accueil de leurs employés qui sont vraiment bien formés. Donc, il y a maintenant 4 campings prêts à camper qu'on appelle les tentes Utopia. Donc, on arrive, c'est un peu comme une tente de scout, là. Tout est installé, on a un petit poêle, on a un petit frigidaire. Il y a même les aires de foyer, de pique-nique, tout ça, qui sont bien adaptées, toujours près d'un bloc sanitaire adapté. Ils ont maintenant aussi des chalets compacts, donc des chalets rustiques là, de base, mais qu'on peut avoir, il y en a quand même 2 qui sont bien adaptés. Et bien sûr, on peut s'y rendre à l'année parce qu'ils ont aussi des activités hivernales qu'on oublie parfois. Hein. C'est le fun d'aller sur la plage à Oka, puis ils ont même le fauteuil roulant hippocampe qui nous permet d'aller rouler sur la plage. Mais il y a aussi des activités hivernales, donc ils ont également un fauteuil roulant tout terrain qu'on appelle le skivel, là, ce qui est qu'on peut utiliser pour se promener en hiver, tout comme d'ailleurs un fauteuil roulant, là, l'hippocampe peut aussi s'adapter pour l'hiver.
Et justement, donc c'est aussi un site qui est accessible en voiture à l'année. Donc, il n'y a pas non plus c'est déjà ce problème d'accès.
Puis en été, ils ont des belles pistes pour se promener là, en tant que piétonnier et qui sont aussi bien balisées là, pour les personnes en fauteuil roulant. Donc, on peut aller explorer là, plus loin que juste la petite plage ou le petit snack bar de l'entrée. Là. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est un des endroits où on peut vraiment faire nous-mêmes la promotion parce que M. André Leclerc, le directeur de Kéroul, et moi-même, on est 2 personnes qui y vont là, respectivement avec nos familles, avec nos amis pour différentes activités. Lui, il utilise les hébergements. Moi, j'utilise plus les activités du jour. On peut louer des espaces là, pour être sûr qu'on arrive là-bas puis qu'on peut faire un pique-nique en groupe et c'est vraiment là, très bien accueilli.
Justement, pour qu'on puisse rester avec nos amis, avec notre famille et profiter de l'activité. En terminant, si on veut avoir plus d'informations sur les parcs glacés, parcs, sur l'accessibilité peut-être de différents endroits, où est-ce qu'on va?
Bien d'abord, c'est très simple pour la CEPAC, hein, c'est cepac.com. Pour ce qui est de Kéroul, vous pouvez regarder sur notre site de la route accessible ou le site web général, donc kéroul.qc.ca ou larouteaccessible.com.
Merci beaucoup, Isabelle Ducharme, présidente de Kéroul. C'est une belle suggestion pour l'été qui s'en vient. On commence déjà à planifier nos vacances estivales. Merci d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour venir nous parler de la CEPAC.
Fait plaisir.
C'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui à Ça vaut le détour. Je remercie mes invités en studio Isabelle Ducharme de Kéroul, Benoît Racette de Execo, et on avait en première partie d'émission M. Olivier Lajoie de Trivel et on avait commencé avec Karine Richard de Autisme Aide Estrie. Demain, on découvre les ateliers musico-sensoriels pour les enfants autistes avec Annie Bastien, animatrice et intervenante. Je remercie Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche et aux médias sociaux. C'était Maxime Despas-Merlot pour Ça vaut le détour. À bientôt.